Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série « L'importance de la rédemption ». Nous arrivons à l'étude numéro 17 et le titre sera « Quel est le dessein divin et les principes qui gouverne la vie chrétienne. » Il est des plus importants que nous soyons conscients du fait que la vie chrétienne est gouvernée par un dessein. La pensée de « dessein » entre guillemets, en vérité ce mot lui-même, a une place bien en vue dans le Nouveau Testament. La plupart d'entre nous, nous sommes familiers avec un passage qui est lié à la pensée suivante, que toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le dessein qu'il en avait formé. Romains chapitre 8, verset 28. Malheureusement, nous avons l'habitude de couper ce passage en deux pour n'en prendre que la première partie, telle que « toute chose concourt au bien ». C'est magnifique. Mais on doit aller plus loin. Il faut lire toute la strophe et nous pouvons peut-être continuer et de dire seulement, pas seulement toute chose concourt au bien, mais de ceux qui aiment Dieu, Mais ce n'est pas toute la déclaration qui ajoute de ceux qui sont appelés selon le dessein qu'il en avait formé. Et puis nous avons une autre parole, peut-être moins généralement connue. Elle dit ceci: vous êtes prédestinés suivant le dessein de celui qui produit toutes choses conformément à la décision de sa volonté. Éphésiens, chapitre 1, et le verset 11. Et puis, encore, c'est pas tout. Suivant son dessein éternel, qu'il a réalisé en Jésus-Christ, notre Seigneur, Éphésiens 3, verset 11. Et ajoutez encore un autre passage. Selon son propre dessein, selon la grâce. 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Ces passages sont suffisants, au moins, pour indiquer que le dessein est une idée qui gouverne la vie chrétienne. Nous ne sommes pas sauvés simplement pour être sauvés, mais nous ne devenons pas chrétiens simplement pour être chrétiens. Comprenez-vous? Ce n'est là que le commencement de quelque chose. Ce n'est pas la fin de tout. Ce n'est pas le moment de nous asseoir dans un fauteuil. Nous sommes sauvés en vue de quelque chose de beaucoup plus grand dans la pensée et dans l'intention de Dieu. Nous demandons, qu'est-ce donc que le dessein? Il nous est dit dans les Saintes Écritures, là il nous est dit beaucoup de choses, que nous ne pouvons pas nous arrêter à citer maintenant. Sans entrer dans de grands détails, si nous rassemblons tout ce qui est dit à ce sujet, nous voyons qu'une chose embrasse et couvre toutes les autres qui n'en sont qu'une seule part. Le dessein divin nous est montré dans tout ce qui est, c'est-à-dire dans une phrase de l'une des lettres de l'apôtre Paul qui dit ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous, vous et moi, parvenus à la stature parfaite du Christ. Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Chers amis, nous passerons un peu de temps à méditer cette merveilleuse parole, mais nous reconnaîtrons immédiatement qu'elle rend Christ très grand. Sûrement, si tous les chrétiens qui ont été de tout temps et qui sont et qui seront encore appelés dans ce dessein d'atteindre à la stature parfaite et à la plénitude de Christ et le nombre en est simplement innombrable durant tous les siècles et dans toutes les générations, depuis les premiers chrétiens, on peut bien le dire, si tout ce vaste nombre, ce nombre innombrable, est appelé à la même vocation, eh bien la plénitude de Christ a sa stature parfaite. Il faut donc que Christ soit en vérité, on peut bien le dire, très grand, n'est-ce pas? Oui, et la vie chrétienne doit donc être quelque chose de très grand. Si elle prend son caractère, sa signification et ses dimensions de Christ, la vie chrétienne qui correspond à Christ doit donc être quelque chose de très grand. Elle doit nécessairement être progressive. Aucun chrétien, en aucun moment de son expérience ou de son histoire ici-bas, sur cette terre, ne saurait dire qu'il ou elle a atteint ce merveilleux but. Cela signifie que la vie chrétienne est donc une vie de progrès, je dis bien de progrès, et de développement. Elle est toute tendue vers cette plénitude finale. Nous trouvons donc dans le Nouveau Testament que la vie chrétienne nous est présentée en trois phases bien distinctes. Nous sommes chrétiens, nous devenons chrétiens et nous serons toujours jusqu'à la fin chrétiens. Ces trois phases sont indiquées dans la langue originale du Nouveau Testament par trois temps différents du verbe. Je crois que c'était le docteur H. Moule qui a écrit de merveilleux commentaires bibliques hors du commun, qui voyageait un jour tandis que une jeune fille de l'armée du salut entrait dans le même compartiment que lui. Lorsqu'ils furent installés et en route, lui, il était le doyen de la faculté à ce moment-là, et elle lui demanda « Monsieur, êtes-vous sauvé ?» Aujourd'hui, on n'oserait plus demander une telle question, pourtant une question importante. On n'oserait plus parce que les temps ont changé et on pourrait même avoir une plainte pénale, éventuellement, contre la liberté d'expression, liberté de croyance, et j'en passe, et donc ça pourrait être mal interprété. On n'ose même plus avoir une croix pour une jeune fille sur sa poitrine, parce que cela va porter des problèmes de dénonciation. Bref, ça a bien changé dans le mauvais sens. Mais revenons à notre jeune fille téméraire, mais avec beaucoup de zèle. Elle avait du zèle pour le Seigneur. Monsieur, qui que vous soyez, un grand théologien ou pas, êtes-vous sauvé? Et notre grand théologien lui a répondu, « Est-ce que vous voulez dire ?» Et il cita alors les trois mots grecs. Il cita le mot qui signifie « J'ai été sauvé », ainsi que le mot qui signifie « Je suis sauvé », et enfin le troisième mot qui signifie « Je serai sauvé ». La jeune fille fut naturellement toute déconcertée, on le comprend. C'était peut-être un peu dur pour elle. Elle ne sut évidemment pas que répondre, mais cela a provoqué un entretien très très utile pour le commencement, le développement et la fin de la vie chrétienne. Oui, c'est ce que dit le Nouveau Testament. Nous avons été sauvés, nous sommes sauvés et nous serons sauvés. Alléluia. Nous avons été acceptés en Christ. Nous croissons, nous grandissons. Nous allons faire des progrès en Christ. Nous serons rendus parfaits en Christ. Christ embrasse donc toute la vie du chrétien depuis son commencement dans toute sa continuation jusqu'à sa consommation. Ça, c'est une question qui n'a plus besoin de nous être prouvée. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que la plénitude de Christ? Eh bien, quel est le début, la nature simple, élémentaire de Christ dans laquelle nous entrons dès le commencement? Lorsque nous entrons en Christ, nous disons que nous sommes entrés dans la vie. Nous avons trouvé la vie en Christ. Le grand secret de notre toute première expérience, c'est que nous avons reçu le don de Dieu qui est la vie éternelle. Et ce qu'il y a de plus, nous le savons, il n'y a aucun doute à cet égard. Nous savons que la vie nous a été donnée. Et puis au commencement, nous disons que nous avons reçu la vue ou que nous sommes entrés dans la lumière. Bien que nous ne puissions pas encore le définir ou l'expliquer, tout a été illuminé pour nous, tout est devenu entièrement nouveau, c'est comme un autre monde. Nous savons que nos yeux ont été ouverts, nous en sommes arrivés à voir et la lumière a jailli. Nous pouvons dire « Je sais que j'ai été aveugle ». Et que maintenant je vois. C'était mon cas, chers amis. Saint Jean chapitre 9, verset 25. J'étais dans l'obscurité. Maintenant tout est lumière. Exprimons-le comme nous le voulons. Le commencement de la vie chrétienne est juste cela. La vie, la lumière, et ensuite la liberté. L'une des grandes choses au commencement de la vie chrétienne, c'est un sens merveilleux de délivrance et d'émancipation. C'est le sentiment d'avoir été libéré. Il nous faudrait 3 CD pour parler de tout cela, de cette liberté dans laquelle Christ nous fait entrer, cette merveilleuse libération, cette une très grande réalité. Enfin, nous entrons en Christ, et lorsque nous entrons en Christ, nous entrons dans l'amour, oui, l'amour divin, et l'amour de Dieu entre donc maintenant dans notre cœur. Ce sont là les 4 choses dans lesquelles, sous une forme élémentaire, nous entrons et qui entrent en nous tout au commencement. Nous pourrions naturellement en dire bien davantage, et là, il y a encore beaucoup d'autres choses. Mais cela suffira pour nous donner la réponse à notre demande. Reprenons-les une fois encore. Premièrement, nous avons la vie, une vie nouvelle et une vie totalement différente. Je ne parle pas maintenant de la manière dont nous vivons, cela suivra tout naturellement, mais il y a en nous une nouvelle puissance d'énergie qui est la vie divine. C'est une vie nouvelle, entièrement autre, et cette vie a en elle une autre nature. Elle appartient à un autre royaume et elle à la nature de cet autre royaume. C'est le royaume de Dieu lui-même. Je ne veux pas dire évidemment que nous soyons dès ce moment-là des créatures entièrement autres, mais c'est le commencement. Nous sommes conscients d'une nouvelle nature qui est à l'œuvre maintenant en nous, qui produit certaines choses et s'oppose surtout à certaines autres choses, ce qui ne nous était avant jamais arrivé. La vie, nous le voyons, s'affirme par les difficultés et l'opposition. C'est une nouvelle force de vie, une énergie d'un caractère différent, d'un autre royaume qui nous est donné par notre nouvelle naissance. Elle est donc différente. La lumière se fait maintenant en nous. Il y a, nous recevons une nouvelle intelligence, une nouvelle compréhension, une nouvelle clarté, une vision pure des choses. Celui qui a fait une réelle expérience chrétienne connaît cela. Il voit ce qu'il n'aurait pu voir auparavant. Il avait peut-être jusqu'alors fait des efforts pour voir et il a lutté. Mais maintenant, il, et je dirais elle aussi, parce que quand on parle de l'homme bibliquement, toujours souvenez-vous que la femme y est y comprise, car ils en font qu'un. C'est pour ça qu'on parle de l'homme. Mais s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas de malentendu. L'homme et la femme, c'est la même chose. Plutôt, la femme aujourd'hui, elle avance plus vite que l'homme dans la foi chrétienne, selon des statistiques. Parce que l'homme est quand même un peu macho et il se croit, je ne sais pas quoi, il est trop fier. C'est une erreur. Ne soyons pas trop fiers. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous a montré? La fierté? Pas du tout. Il était l'humilité même. J'ai dit que maintenant, il ou elle voit. Et c'est un autre monde qui s'ouvre devant lui, devant elle, de même qu'un monde nouveau est donné à une personne née aveugle au moment où elle recouvre la vue. En effet, elle reçoit un nouveau monde qu'elle n'a pas connu, puisqu'elle ne l'a jamais vu. Elle a seulement eu une idée plutôt virtuelle du monde. Elle en avait entendu parler, il lui avait été décrit, il lui avait été expliqué, mais elle n'avait encore jamais pu dire « Maintenant je vois, Alléluia !» Une nouvelle liberté, c'est la délivrance. Et avec la délivrance, c'est l'élargissement. Chers amis, quelle grande chose est la vie chrétienne ! Il y a quelque chose d'anormal dans une vie chrétienne si elle reste petite, si elle reste médiocre, limitée, chétive et étroite. La vie chrétienne est une grande chose. Elle est un pays aux horizons lointains, Ésaïe 33, verset 17. Avec chaque nouvel élargissement, nous avons un nouveau sens intérieur de perspective. Nous avons toujours et toujours des horizons nouveaux. Plus nous avançons dans la vie chrétienne, plus nous sommes conscients de tout ce qu'il y a encore à découvrir. Nous n'arrivons jamais à épuiser ce sens merveilleux de perspective et d'avenir, ce sens d'une porte largement ouverte. Pardon. L'amour devient maintenant une nouvelle puissance d'action dans la vie, ainsi que dans le cœur. Le caractère qui marque une véritable vie chrétienne dès son commencement, c'est l'amour. L'amour se manifeste pour un désir spontané de faire connaître notre expérience à quelqu'un d'autre, de faire part de la bénédiction dans laquelle nous sommes entrés. C'est un grand élan du cœur pour tout le monde. Et dans son caractère, c'est un amour désintéressé. Le moi disparaît. Nous faisons n'importe quoi. Nous consentons à tous les sacrifices sans plus jamais nous considérer nous-mêmes. Et cet amour de Christ nous presse à prendre un grand soin du bien des autres, pas seulement notre nombril. Nous nous occupons maintenant des autres dans une dévotion sincère à leur intérêt, pas seulement à mon intérêt. C'est donc un nouvel amour. Nous ne pouvons pas nous élargir sur chacune de ces choses, encore moins peut-être sur cet amour merveilleux de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs, mais nous voyons que ces quatre choses seules sont là sous une forme élémentaire dès le commencement. Chers amis, qu'est-ce que donc que la plénitude de Christ ? Eh bien, c'est simplement l'élargissement continuel et la finalité suprême de toutes ces choses. La croissance continue de la vie, la fraîcheur, la force dynamique de Dieu dans la vie, cette puissance d'action, cette nature divine qui est dans sa vie, ne devrait jamais, jamais s'arrêter. La vie doit, selon le dessein éternel, croître et croître et croître de plus en plus. Oui. Beaucoup plus de vie. Prenons cela sérieusement à cœur. Recevons la vie éternelle, cela peut être un don reçu une fois pour toutes. Mais si nous en sommes et que nous voulons toujours rester au commencement, nous n'avons pas encore découvert combien merveilleusement pleine est cette nouvelle vie et combien cette vie peut devenir de plus en plus abondante à mesure que nous avançons. Plus est longue notre vie de chrétien, plus nous devrions être caractérisés par cette vie puissante de Christ, la puissance de sa résurrection, comme l'appelle la sainte parole de Dieu, et la plénitude de Christ est l'élargissement, c'est cela, c'est l'élargissement progressif, et c'est le développement, et c'est la somme totale de ces choses qui nous ont été données et en lesquelles nous sommes entrés tout au commencement de notre vie chrétienne. Et lorsque nous atteindrons la plénitude, ce qui n'arrivera jamais ici-bas dans cette vie terrestre, car elle est beaucoup trop courte par rapport à l'éternité, mais nous serons un jour dans toute cette plénitude, alors ce sera l'universalité de toutes ces choses. Nous pouvons voir maintenant combien vaste est Christ et combien vaste doit être la vie chrétienne. Les Écritures saintes nous disent que Christ doit remplir toutes choses, et cela afin de tout remplir, selon Éphésiens chapitre 4, verset 10. Comment Christ pourra-t-il remplir toutes choses? Cela signifie simplement que lorsque ce but sera atteint, tout cela, c'est un vaste tout, un tout infini, car tout sera rempli de sa vie, rempli de sa lumière, rempli de sa liberté et rempli de son amour. Il n'y aura rien que lui. Tout ce que est Christ sera exprimé dans la création tout entière. C'est là le but de la vie chrétienne et nous ne répondons pas à notre but si cela n'est pas vrai, n'est pas réel, d'une manière progressive, et cela dès maintenant. S'il n'est pas vrai que ces choses croissent, grandissent en nous, nous avons manqué l'objet même de la vie chrétienne. Oui, s'il n'y a pas en nous davantage d'amour, et encore plus d'amour, et de une nouvelle vie et la nouvelle lumière et cette merveilleuse liberté, eh bien nous avons tout simplement manqué le but même de la vie chrétienne. Oui, Christ remplit toutes choses et toutes choses sont remplies en Christ. Peut-être l'une des meilleures illustrations de cela nous est-elle donnée par Salomon. Salomon est en vérité dans l'Ancien Testament pour ce merveilleux but. Nous connaissons tous l'histoire du roi Salomon et sa grande sagesse. La sagesse de Salomon, c'est en quelque sorte le synonyme même de la sagesse. Si quelqu'un montre une sagesse ou une finesse particulière, nous le qualifierons aisément de petit Salomon. Eh bien, à ce sujet, j'ai lu récemment l'histoire suivante. Et cela dans un journal. Bien sûr, un journal chrétien. On racontait dans une classe de garçons l'incident de l'exécution de Jean-Baptiste. Et nous nous souvenons, cette fameuse Salomé, elle avait dansé en la présence d'Hérode, une danse que on nommerait aujourd'hui une danse sexy, évidemment. Et celui-ci en avait eu tant de plaisir qu'il lui avait dit « Que désires-tu, Salomé ? Que me demanderas-tu ? Je te donnerai tout, même si c'était la moitié de mon royaume. » Et la jeune fille, elle était allée auparavant consulter sa très mauvaise mère, Hérodias. Celle-ci haïssait Jean-Baptiste qui avait jugé ses voies totalement perverses, sadiques, et elle conseilla à sa fille de demander la tête de Jean-Baptiste pour se venger. Or Hérode, en apprenant cela, fut dans une très, très grande détresse. Il a presque pété les plombs et il chercha un moyen de s'en sortir. Ah, ah, c'était trop tard, car il n'a trouvé aucun moyen pour s'en sortir. Parce que, rappelez-vous, il a fait un serment solennel, et si un roi aussi puissant fait un serment, ce n'est évidemment pas pour rire, ni pour plaisanter. Aussi, il a été obligé d'ordonner que la tête de Jean-Baptiste lui fût apportée. Ici, le maître s'adresse, le maître d'école, si vous voulez, l'instituteur, s'adresse à la classe et demande à ses élèves « Maintenant, qu'auriez-vous fait si vous aviez été à la place d'Hérode ?» Cela se passait dans une école pas comme vous l'avez supposé en Suède, en Allemagne ou en Suisse. Non, 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 non. Il n'y avait là pas des garçons avec des yeux bleus et les cheveux blonds dorés. Non, non, non. C'était un petit garçon aux cheveux drus, frisés, en Afrique profonde. Et c'était un petit garçon qui était éclairé par le Seigneur, qui était éveillé par une nouvelle vie qu'il a reçue. Et spontanément, il s'écria, « Moi, j'aurais tout simplement dit à la femme, « Voyons, sache que Jean-Baptiste appartient à la moitié du royaume que je ne t'avais pas et jamais promis. Et ainsi, dans le journal, le lendemain matin, l'histoire était intitulée « Il existe un jeune Salomon ». Ceci dit en passant, mais Salomon, il est évidemment le synonyme d'une vaste sagesse et aussi d'une vaste richesse. Nous connaissons les richesses de Salomon et une vaste puissance, car son royaume dépasse en étendue tous les royaumes qui avaient existé en Israël. Et il y avait une vaste gloire. Le Seigneur Jésus lui-même en parla qu'elle était proverbiale. Jésus a dit « Salomon même, dans toute sa gloire ». Matthieu, Saint Matthieu chapitre 6, verset 28. Et vous pouvez lire que lorsque la reine est venue voir elle-même pour constater tout cela, son verdict a été « On ne m'en avait pas dit la moitié ». J'avais entendu des récits étonnants, mais cependant, on ne m'en avait pas dit la moitié. 1 roi, chapitre 10, verset 1 à 7. Or, le peuple de Salomon était au milieu de tout cela. Il se trouvait dans la bénédiction de tout cela. Et en un certain sens, tout cela était aussi dans le peuple. Salomon ne se serait pas arrogé le droit d'avoir tout cela pour lui-même, mais on pouvait voir tous ses biens dans les vies et les maisons de son peuple. Le peuple était dans la grandeur de Salomon, mais la grandeur de Salomon était aussi dans le peuple. C'est là la différence d'aujourd'hui. Or Jésus dit dans le Nouveau Testament, il y a ici beaucoup plus que Salomon. Saint Matthieu, chapitre 12, verset 42. Christ surpasse infiniment Salomon. Et par conséquent, le peuple de Christ est, dans la même mesure, plus grand que le peuple de Salomon. Sa plénitude doit être l'héritage de son peuple. Son peuple doit être dans sa plénitude. Et sa plénitude doit se trouver en son peuple. C'est là le dessein de Dieu. Ce que Dieu a voulu, c'est avoir un peuple qui soit dans une grande prospérité, une grande opulence, de grandes richesses spirituelles et une grande gloire spirituelle. Nous sommes appelés, dit la sainte parole de Dieu, à sa gloire éternelle, selon la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10. C'est là, brièvement et très simplement, le dessein de Dieu. Oui, il y a des principes qui gouvernent la vie chrétienne. Il est excessivement important, très important, que nous le reconnaissons, car il est impossible, sans ces principes, de réaliser le dessein. Les principes sont fondamentaux pour le dessein et ils le gouvernent. Nous n'avancerons dans le dessein que de manière progressive et nous ne l'atteindrons finalement que par le moyen des principes. Si donc le dessein s'est saisi de nos cœurs et que nous y répondions en disant « Oui, c'est une chose merveilleuse que d'être appelé selon ce dessein et mon désir est d'y parvenir. » Il est donc nécessaire de connaître quelques-uns des principes qui le gouvernent, des principes qui sont indispensables au développement et à la réalisation du dessein. Le premier principe fondamental du dessein, c'est la croix. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix, elle a deux côtés. Ou bien, elle opère de deux manières. Elle a premièrement un aspect extérieur, c'est-à-dire ce qu'elle signifie pour nous. Ensuite, elle a un aspect intérieur, ce qu'elle signifie en nous. Je répète, la croix a, premièrement, un aspect extérieur, c'est-à-dire ce qu'elle signifie pour nous. Ensuite, elle a un aspect intérieur, ce qu'elle signifie en nous. Ces deux côtés de la croix représentent une grande partie de l'enseignement du Nouveau Testament. La croix est une œuvre qui, d'un côté, est accomplie, elle est une œuvre pleinement et finalement terminée, c'est-à-dire que, par elle, il nous est permis de nous approcher de Dieu, d'avoir accès, c'est le terme du Nouveau Testament, d'avoir accès auprès de Dieu, d'avoir l'union avec Dieu et d'avoir la communion avec Dieu. Toute l'œuvre nécessaire à tout cela a été pleinement accomplie. Nous avons été rapprochés par le sang précieux de sa croix. Nous sommes devenus un avec lui par la croix. Je répète, nous sommes devenus un avec lui par la croix. La croix de ce côté-là, pour notre approche de Dieu, pour notre accès auprès de Dieu, notre union avec Dieu est une œuvre pleinement accomplie et la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de l'accepter. De l'accepter dans notre cœur et esprit par la foi. Cependant, il y a aussi d'autres aspects de la croix, ce qu'elle doit signifier en nous. La croix doit être une puissance continuelle dans notre vie. Elle est un principe qui doit être continuellement à l'œuvre en nous. Il y a ainsi d'un côté ce que la croix a signifié en elle-même, une fois pour toutes, et il y a d'un autre côté ce que la croix demande de nous. Je répète, il y a d'un autre côté ce que la croix de Jésus-Christ demande de chacun d'entre nous, de toi comme de moi-même. Quelle a donc été la signification de la croix? De manière vaste et générale, la croix a signifié la mise de côté aux yeux de Dieu d'une espèce d'homme. À un point donné, Jésus-Christ a assumé la capacité de représenter tous les hommes, et j'ajoute moi-même, pour que rien ne soit mal compris, de tous les femmes, tels qu'ils étaient aux yeux de Dieu, c'est-à-dire dans le péché, sous le jugement. Alors lui, Jésus-Christ, il a dit dans les Saintes Écritures, « Qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Il a fait pécher Jésus-Christ à ma place, ainsi que à ta place. » 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Et encore, il a été fait malédiction pour nous. Galates chapitre 3 verset 13. C'est là ce que nous étions, ce que étaient tous les hommes, et j'ajoute les femmes, c'était le péché. Ce n'est pas seulement que nous commettions des péchés, nous étions entièrement péchés aux yeux de Dieu, sous le jugement, sous la condamnation. Nous étions donc rejetés. Et à ce point-là, Jésus-Christ a pris cette place, votre place, ma place, la place de tout homme et de toute femme, tel qu'il est aux yeux de Dieu, rejeté, et il entra dans une expérience où il vécut toute la signification consciente de ce rejet de Dieu. Un rejet tel, oui, un rejet tel que vous et moi, nous n'en avons jamais connu et nous n'avons plus besoin d'en connaître. Voyez-vous, avoir le moindre goût, le moindre sens d'être rejeté de Dieu, cela suffirait à désintégrer notre âme même. Si vous et moi, nous devions avoir conscience d'être abandonnés de Dieu. Ce serait dévastateur pour notre être moral, absolument insupportable. Jésus-Christ a pris sur lui toute la somme de cet abandon en pleine conscience. Cela le désintégra. Son cœur même s'est rompu sous le prix de tout cela et s'est brisé parce qu'il a connu et il a supporté en ce terrible moment éternel la réalité de l'abandon de Dieu à notre place. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « mon Dieu, tu m'as abandonné ». C'est pour vous et pour moi qu'il a fait tout cela. Nous n'aurons plus besoin de nous éveiller dans l'éternité à la conscience de cet abandon de Dieu. Il nous accepte, et si nous acceptons ce qu'il a fait pour nous, eh bien, acceptons cela immédiatement. N'attendons surtout pas. Nous le voyons donc, chers amis, ce que Jésus-Christ a volontairement accepté, c'était la mise de côté d'une espèce particulière d'homme, et j'ajoute de femme. En cette heure terrible, il s'est mis volontairement à la place de cette espèce d'homme. C'était Dieu qui disait « Je ferme pour toujours la porte à cette espèce d'être. » La croix signifie que dans l'amour de Christ, vous et moi, en ce que nous sommes naturellement, en tant qu'hommes et femmes par nature, nous avons été mis de côté. Dieu en Christ a déposé et destitué carrément une sorte d'être, une espèce dégénérée. Je le reconnais, une espèce dégénérée de la création. Il l'a mise hors du chemin. Or, dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ça change. Tout cela a été accompli. Cet homme-là a disparu. Ce n'est pas cet homme qui a été ressuscité d'entre les morts. C'est un homme nouveau. Un autre. Christ a donc ôté le vieil homme et il le remplace maintenant par un homme d'une nouvelle création. Et ici, le ciel s'est enfin ouvert. Dieu accepte cet homme, cette femme, et il est installé et établi pour toujours devant Dieu comme le modèle de l'homme qui avait toujours été dans le passé, dans la pensée de Dieu. La croix, d'un côté, elle fait disparaître une espèce d'homme, et de l'autre côté, elle installe et établit une autre espèce d'homme, et j'ajoute de femme. Si donc, dit l'apôtre, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La vie chrétienne est simplement cela. En principe, elle est cela. La croix a effectué en nous ce merveilleux changement. Il y a une différence entre la place où nous étions et ce que nous étions auparavant, et ce que nous sommes maintenant. En Christ, il y a maintenant un homme différent, différent par la foi en Christ, et nous devenons une création différente. Maintenant, il faut avant tout que nous acceptions cette position. Nous ne pourrons jamais être en Christ, ni avancer dans le chemin qui nous mène dans le royaume de la plénitude, avant d'avoir accepté cette position-là où nous avons été mis par Dieu dans la mort de Christ. Dieu nous dit en fait, « Vois-tu, mon cher enfant, en ce qui me concerne, tu es en toi-même un homme mort, une femme morte. Car tu es mort, ton esprit est mort, ta carcasse semble vivante, c'est la chair. Mais l'esprit qui est en toi est mort. Alors je te demande de reconnaître que lorsque mon fils est mort à la croix, tu es mort également en lui lorsque il est ressuscité, lorsqu'il ressuscita. Et tu ressuscitas également en lui, et que maintenant tu es une nouvelle création. Avant d'avoir accepté cela, tu n'arriveras jamais, jamais à rien. Lorsque tu acceptes cela, tu es en mesure de prendre ta place dans la réalité de Christ ressuscité. Tôt ou tard, nous croissons spirituels, c'est-à-dire nous devons grandir spirituellement. Et là, se trouvera en présence, nous nous trouverons en présence de ces principes sous la forme de la souffrance, mais aussi sous la forme de la discipline. Aujourd'hui, souvent, nous manquons de volonté et de discipline. Nous devons demander au Seigneur de nous donner cette discipline et cette volonté, car autrement nous nous laissons aller à n'importe quoi. Nous le voyons, il s'agit avant tout d'une position à prendre délibérément par la foi. C'est quelque chose qui a constamment besoin d'être souligné. C'est le principe fondamental de la vie chrétienne. Nous devons consentir au verdict que Dieu a prononcé sur nous. Et cela en ce que nous sommes par nature, de le reconnaître. Nous n'avons pas à nous disséquer nous-mêmes pour déclarer ceci est bon et cela est peut-être mauvais. Et ceci n'est pas aussi bon et cela n'est pas si mauvais. Mais Dieu dit, il dit, écoutez bien, il dit, tout ce que tu es en toi-même a maintenant disparu par mon Fils bien-aimé, en lui. Je ne fais point de distinction entre ce que tu appelles bon et ce que tu déclares mauvais. Je te regarde maintenant comme étant entièrement sous la condamnation. Ça, c'est clair. Il n'y a point de juste, nous est-il dit, pas même un seul. Romains chapitre 3, verset 10. Ce qui est bon n'habite point en moi, c'est-à-dire n'habite pas dans ma chair. Romains 7, verset 18. C'est difficile d'accepter ce fait. Nous pensons que nous sommes bons par nature. C'est l'ennemi qui nous dit cela. Oui, il est primordial et il est vital que nous nous saisissions de ce principe fondamental de la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens ne font aucun progrès. Leur développement et leur croissance sont entravés et arrêtés parce que cette question primordiale n'a pas été réglée par eux. Ils essayent encore de donner une importance à cette personne, ce fameux « moi », cette propre nature que Dieu a déclaré ne pas vouloir accepter. Ils pensent encore et encore être quelque chose en eux-mêmes et s'efforcent d'être quelque chose en eux-mêmes. Ils n'ont jamais accepté cette position absolue et suprême où Dieu dit « Je t'ai mis dans une tombe avec mon fils et ce fut la fin de ce que tu étais en toi-même. » Je répète, « Je t'ai mis dans une tombe avec mon fils et ce fut la fin de ce que tu étais en toi-même. » Tout doit maintenant être d'un autre ordre, doit venir d'une source entièrement nouvelle. Tout doit venir de Christ ressuscité, et plus rien doit venir de toi. Je répète, tout doit venir de Jésus-Christ ressuscité, et plus rien doit venir que de toi-même. Ceci est la clé de la plénitude. Elle ouvre le chemin, elle ouvre la porte toute grande. Lorsque nous avons réellement reconnu cela, et que nous prenons cette position par la foi, il n'y a plus de limite à ce qui peut être fait dans notre vie chrétienne. Mais ensuite, une fois que cette position absolue a été prise et acceptée, qu'elle a été reconnue, reçue par la foi, c'est alors que commence l'autre aspect, l'application du principe. Nous acceptons cette position suprême comme étant une base et la reconnaissance comme le verdict même de Dieu, et ensuite le principe de la croix commence à agir en nous. Oui, ici, les temps que nous avons déjà vu précédemment. Ces temps se retrouvent de nouveau. Premièrement, on retrouve le passé. Nous avons été crucifiés, n'oublions jamais cela, avec Christ. Romains 6, verset 6 et Galates, chapitre 2, verset 20. Et puis, nous avons le présent. Saint Paul dit, nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus-Christ puisse maintenant être manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 10. Et encore, je meurs chaque jour. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 31 selon la version Darby. Et enfin, le futur. Son aspiration était « Ainsi, je le connaîtrai, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances me rendent conforme à lui en sa mort. » Philippiens, chapitre 3, verset 10. Donc ici, nous avons le principe à l'œuvre. Il a été accepté dans un acte définitif, mais il est appliqué maintenant dans la vie comme étant une force active qui, d'un côté, nous amène à la réalité actuelle de notre mort avec Christ et, de l'autre côté, fait entrer en même temps dans notre expérience, notre union de vie avec Christ. À mesure que la mort agit, la vie agit aussi en nous. C'est juste la signification de la vie chrétienne. Qu'est-ce que Dieu fait de nous? Oui, pourquoi toutes ces peines, toutes ces difficultés, toute cette discipline de dur chemin ou ce dur chemin? Cette école qui semble un peu pénible. Pourquoi tout cela? J'avais pensé que la vie chrétienne devait être un cantique continuel, une sorte de fête et une marche joyeuse. C'est ce que j'avais pensé autrefois. Et tout à coup, j'ai compris. Nous trouvons que ce n'est pas du tout cela. Cela ne signifie pas que la joie disparaît. Mais cela signifie que nous entrons dans une suite de difficultés et de choses dures pour notre vieil homme, que le chemin est très difficile. Quelle en est, chers amis, la signification de tout cela? Eh bien, c'est que Dieu applique le principe suivant. Il met de côté le vieil homme et il fait la place pour le nouvel homme. N'est-il pas vrai d'un chrétien, d'un vrai chrétien, qui est différent de toute autre personne, que la souffrance produit la beauté, que la souffrance produit le fruit, la nature de Christ, que la souffrance fait tout simplement paraître ce que est Christ. Dans les autres, si souvent, la souffrance produit l'amertume, produit le ressentiment. Quelques-unes des personnes les plus difficiles que j'ai jamais rencontrées et auxquelles j'ai essayé d'aider ont été celles qui, à cause d'une grande adversité dans leur vie, se sont tournées contre Dieu, sont devenues amères et aigries. Croyez-vous que j'aurais pas pu devenir aigri quand ma merveilleuse épouse, que j'ai toujours nommée ma sainte épouse, ça implique et ça regarde que moi, hein? Mais qu'elle est morte à 59 ans par négligence médicale, hein? Il y a plus de 20 ans de cela maintenant, c'est pas drôle du tout. C'est la souffrance qui a fait cela, mais cela n'arrive pas à un véritable chrétien. La chose merveilleuse chez un chrétien, véritable, c'est le miracle de la vie chrétienne. C'est simplement ceci, c'est que l'on peut rencontrer de chers enfants de Dieu qui ont une vie de souffrance et d'agonie, j'en connais, soit dans leur corps, soit dans leurs circonstances, mais qui sont malgré tout rayonnants. Si l'on entre là où ils sont, on trouvera la paix de Dieu. Les cantiques qu'ils chantent sont des hymnes à l'amour de Dieu. Ce sont leurs chants favoris, tandis que l'on pourrait penser à en juger naturellement que s'ils pouvaient chanter, ce devrait être tout autre chose. J'ai clairement dans ma pensée quelques exemples de personnes comme celle-là dans mon expérience personnelle. Chers amis, pourquoi tout cela? Oui, pourquoi? C'est que le principe de la croix est à l'œuvre. Il fait la place pour Christ, pour cette vie de la nouvelle création. Il ouvre la voie à la plénitude de Christ. C'est le premier principe. Le second principe ne peut être mentionné que brièvement avant de terminer. C'est en vérité un principe très important. C'est celui de la relation, car un chrétien individuel aura plus de peine en tant qu'individu séparé et isolé d'arriver à la plénitude de Christ. Mais Dieu, par l'Esprit Saint, donne des moyens à celui, à celle qui cherche. Il y a des chrétiens et non-chrétiens qui habitent loin d'un lieu de culte, voire malades, infirmes ou affaiblis par l'âge, mais qui possèdent une Bible où peuvent entendre des émissions de radio chrétienne, des CD, etc., peuvent, malgré cet handicap, recevoir un merveilleux moyen d'enrichir leur domaine spirituel. Chers amis, la toute première leçon de la plénitude et de la croissance spirituelle, c'est l'articulation des chrétiens. La nécessité de reconnaître le fait que nous appartenons les uns aux autres. La seconde leçon, c'est que nous ne pouvons pas avancer l'un sans l'autre. Notre vie spirituelle dépend de notre relation l'un avec l'autre et le maintien de cet ajustement de l'un avec l'autre est le secret de la croissance spirituelle, même si ce n'est pas très facile parfois, car on ne s'accorde pas toujours à la merveille. Il y a des frictions, mais cela nous forme. Nous verrons que dès que Satan peut réussir son coup de maître et séparer les chrétiens, il a effectué leur arrêt spirituel. Il en est toujours ainsi. C'est ce qu'il cherche. Les divisions sont le chef-d'œuvre du diable qui est opposé au dessein éternel de Dieu qui est, lui, la plénitude de Christ. La relation est vitale pour notre croissance. Elle est avant tout particularité. Elle est donc importante. N'oubliez jamais cela. Mais remarquons-le, ce n'est pas une relation artificielle, surtout pas. Ce n'est pas quelque chose d'institué, ce n'est pas quelque chose que nous organisons nous-mêmes. C'est une relation organique, c'est une relation de vie et d'amour. Elle ne peut venir de l'extérieur parce que nous l'aurions arrangée magnifiquement, parce que nous aurions décidé de l'établir et de la fixer nous-mêmes. Mais elle vient de l'intérieur, c'est-à-dire elle vient de Christ en nous. Saint Paul met le doigt sur ce principe même dans l'église à Corinthe où il a trouvé, vous savez, des cercles qui étaient drôlement rivaux. Un cercle se concentrait sur lui-même et disait « Eh bien nous, nous sommes de Paul ». Un autre cercle se concentrait sur Apollos. Nous, nous sommes d'Apollos. Un autre cercle se concentrait sur Pierre. Nous sommes de Saint-Pierre. Et ainsi de suite. L'appel qu'il leur adresse est celui-ci. Christ est-il divisé, oui ou non? 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 13. La réponse sera naturellement non, absolument non. Et nous terminons. Mais avant, chers amis, de juger le tout, sans discernement aucun et sans aucune sagesse, sans aucun amour et charité, essayons de comprendre qu'il y a des frères et sœurs en Christ qui se trouvent dans des endroits isolés ou malades et très âgés. On nous a montré hier soir, après les nouvelles, je me permets juste de regarder, il y a des places de campement, même en Suisse, mais en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, partout, où il y a des quantités de gens de tout âge, et plutôt souvent passé la cinquantaine, qui n'ont plus de travail, leurs femmes les ont tout simplement quittées, parce qu'il n'y avait plus aucun intérêt pour elles, hein, c'est comme ça aujourd'hui, et ils se trouvent là dans ces places de camp, dans des camping-cars, des voitures, ils dorment dans des voitures, dans un petit car, un petit camion, et ils s'arrangent. Et je voyais de la neige autour, jusqu'à 40 centimètres, qu'il fallait la pelle et quand même une certaine force pour enlever cette neige devant ces camping-cars. C'était épouvantable. Et un homme dans la soixantaine, plus ou moins malade, il a regardé quelle était la température et il faisait tout juste 4 degrés. Voyez-vous, moi je sais que je ne serai plus là, car je supporte très mal le froid, surtout quand cela dure. C'est pas la même chose que quand on va juste faire du shopping ou on va à la poste. Ça dure pas très longtemps, mais là, ça dure toujours, chaque jour. Oui, chers amis, pensons à ceux-là qui sont isolés et malades, et souvent d'un âge certain. Restons donc et soyons en relation avec eux, si cela est possible, en tout cas par la prière. Merci, chers amis, pour votre écoute, et nous allons, si vous le voulez bien, terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, qui met ton affection en ceux qui te craignent, qui maintient les débonnaires et qui abaisse les méchants jusqu'en terre, tu éprouves parfois la fidélité de tes enfants, mais tu te tiens près d'eux comme tu te tiens près de Daniel. Si le plus souvent notre vie chrétienne est si facile et rencontre si peu de contradictions, n'est-ce pas, Seigneur, c'est parce qu'elle est si peu fidèle. Donne-nous, ô notre Dieu, d'être de véritables chrétiens dans toute notre conduite, de marcher comme Jésus-Christ a marché et de ne pas craindre, quand la fidélité nous en fait un devoir, de nous distinguer du monde. Apprends-nous à être fidèles dans les petites choses comme dans les grandes, à ne pas nous prosterner devant les idoles du monde et à t'immoler aussi si celles-ci qui se cachent dans nos cœurs et dans le mien. Ô notre Sauveur, nous te rendons grâce de ce que tu nous as appris à t'adorer. Remplis-nous d'un saint désir de te glorifier et détache-nous de plus en plus de ce qui passe pour nous attacher uniquement à toi qui seul demeure. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, le même pour sauver les pécheurs qui t'invoquent, pour fortifier la foi de ceux qui croient, pour suffire aux besoins de tes enfants, pour les consoler, pour les introduire un jour dans ta présence ineffable et dans ta gloire éternelle. Exauce-nous selon ta fidélité. Amen. Et chers amis, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, mes très chers amis.